Nous sommes mercredi 12 avril 2017 et vous écoutez le Dojo Bar.
Bar.
Voilà, bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir.
Bonsoir Dansgar.
Bonsoir.
Bonsoir Zergy. Ah, Zergy fait la souris.
La bouche est allumée.
Voilà, la bouche est allumée, mais nous n'entendons pas Zergy. Je suis désolé, j'ai l'impression que j'ai foiré l'intro en plus, mais c'est pas grave. Au pire, je reprendrai celle de la dernière fois.
En fait, Zergy, c'est un peu un chat de Schrödinger. Tant qu'il a pas dit bonjour, tu sais pas encore si ça marche ou pas.
Ouais, c'est un peu ça, mais c'est l'invité de Schrödinger, en fait. Il revient. Il revient à la charge, peut-être va-t-il marcher, nous ne savons pas. C'est un grand mystère pour nous tous. Bref, c'est l'émission dans laquelle on va parler de Splatoon 2, puisqu'il y a eu le Global Test Fire il y a à peu près 2 semaines. Alors malheureusement, il y a 2 semaines, le timing de l'émission faisait qu'on voulait vraiment finir l'émission Zelda, parce que on voulait éviter de faire un gros trou au milieu. Il n'y a aucun sous-entendu hein, dans cette phrase. Non mais c'est important. Donc pour éviter un gros trou... Est-ce que le cochon peut fermer sa gueule au milieu de Zelda?
Les gros trous dans Zelda, ils sont surtout au bord de la map.
Voilà, là il y a des gros trous, c'est vrai. Il y a des grosses montagnes aussi. Hein. C'est extrêmement. D'ailleurs, moi j'ai pas du tout. Enfin, je me suis rendu compte tout à l'heure que j'avais quasiment pas exploré le sud de la carte. Donc en fait, j'ai dû ouvrir genre 2 sanctuaires dans le sud de la carte. Et je suis sûr qu'il y en a un petit peu plus que ça.
Ah bah moi j'ai fait. Là je commence à être à la fin du jeu, j'atteins les piafs. J'ai fait une belle razzia déjà dans le désert Gerudo. J'en ai trouvé 5-6 facile. J'ai quasiment 80 sanctuaires.
Ah, moi je suis à 80 sanctuaires, mais alors je sais plus combien il y en a, c'est 120 au total ou c'est 100 ?
120.
120, putain, 40 encore à trouver, ça va être...
Facile.
Ouais, sachant que les hauteurs Gerudo, la zone m'a gavé au bout de 5 minutes de jeu, alors je fais bon, allez, vas-y, je vais au donjon suivant.
Ouais, je comprends. Bref, donc nous allons parler de Splatoon 2, on va pas reparler de Zelda, c'est pas vrai, on vient pas de le faire.
Alors Zelda, c'est trop bien.
Zelda, c'est mieux que ta mère, et j'aime bien ta mère.
Oui, voilà, ça résume bien le truc. Donc on va parler de Splatoon 2 parce qu'il y a eu le Global Test Fire, parce qu'il y a le Splatoon Direct, le Splatoon 2 Direct de ce soir. C'est Splatoon plus ARMS ce soir ?
Ouais, sûrement 2-3 autres choses, notamment une petite rumeur concernant un pack Switch Mario Kart.
Oui, voilà, mais c'est transition. Transition, donc c'est le premier sujet d'actu.
Enfin, c'est plus une rumeur pour l'instant, mais les visuels... Les visuels viennent du Nintendo eShop russe, comme de par hasard, qui indiquait l'existence d'un futur parc Mario Kart 8 avec une Nintendo Switch. Ce qui paraît quand même un peu tôt pour un pack avec une console.
Bah,
est-ce que c'est une stratégie, sachant que Mario Kart 8 est un jeu qui a été rentabilisé, je pense, lors de sa version Wii U, et du coup Nintendo fait une petite offre en l'offrant avec la console, c'est un peu...
Bah, en même temps, ce serait une belle. Enfin, Mario Kart 8, il me semble que le pack Mario Kart 8 Wii U est un des packs les plus vendus.
Bah, c'est celui que j'ai.
Voilà, mais il y a énormément de gens qui se sont décidés à acheter la Wii U pour Mario Kart 8 avec ce pack-là. Donc, je me dis que le mettre en pack, même si c'est pas tout à fait à la sortie du jeu, si c'est 2-3 semaines plus tard, c'est quand même pas complètement idiot comme opération. Surtout que dans la foulée, il y a ARMS qui va sortir au mois de mai. Il y a quelques autres jeux qui sont quand même prévus.
Bah, Splatoon qui va sortir l'été, donc je pense en juin pour profiter des différents salons, notamment la Japan Expo, où ils pourront faire un beau tournoi ou quelque chose comme ça, tu vois.
Ouais, non, c'est clair.
C'est pas déconnant.
Moi, je trouve que c'est pas déconnant, surtout que le Mario Kart 8, enfin, un pack Switch Mario Kart 8, le Mario Kart 8 pourrait être préinstallé dans la console, et puis ça coûterait pas grand chose de plus. Alors, sauf que t'aurais pas 32Go du coup livré avec, mais on va dire.
T'aurais 3Go de libre.
Ceci dit, Mario Kart 8 en démat sur ta Switch, ça me paraît être la meilleure chose à faire pour pouvoir y jouer sans se trimballer la cartouche.
Mais il me semble que Mario Kart 8 était pas si lourd que ça comme jeu, ça devait genre 8-9Go, une connerie comme ça.
Non, mais Splatoon non plus d'ailleurs sur Wii, donc il y aura peut-être moyen de l'installer sans que ça te prenne 3 tonnes de place.
Ouais, donc c'est pas... Enfin, je sais pas, moi je trouve pas que ce soit très tôt, au contraire, je pense que c'est plutôt une bonne chose, et si Nintendo arrive à sortir... un pack un peu intéressant tous les 2-3 mois, t'as un jeu intéressant qui sort, t'as un pack Splatoon 2, un pack ARMS,
Je pense que le pack Splatoon 2 sortira plutôt à Noël.
Moi j'aurais plutôt parié sur Super Mario Odyssey, moi, à Noël. Hein.
Ouais, c'est à voir. Après, Splatoon 2, c'est un jeu qui, à mon avis, marchera plutôt bien, notamment au Japon. et ça pourra toujours être une bonne occasion de vendre des packs avec le Splatoon et la console à des gosses à Noël pour qu'ils puissent jouer avec leurs camarades après l'école, quoi, ce genre de choses.
Oui, non, c'est clair. Monsieur Drosgar, vous aviez également un sujet d'actualité.
Et oui, comme d'habitude, c'est des sujets qui sont terribles. Oula. Est-ce que vous avez de l'argent?
Oui.
Oui, beaucoup.
Eh ben, dépensez-le, parce que bah, si vous voulez, je peux vous envoyer mon RIB, c'est toujours sympa.
Bah écoute, tu peux le donner en direct à la radio, les gens se feront un plaisir de t'envoyer une donation.
Oui, oublie pas de nous envoyer un chèque par contre avant.
Un chèque barré.
Un chèque blanc avec l'ordre que. Voilà, avec un ordre blanc.
Monsieur Antix.
Ta pièce d'identité.
À l'ordre de Antix ou Mortal.
Ouais, voilà, y'a pas de soucis. Hein.
Du coup, si vous avez de l'argent, peut-être que certains d'entre vous ont déjà donné sur des sites de crowdfunding, comme Kickstarter. Jamais, c'est vrai?
Ah, jamais.
Non, par principe,
Mortal
jamais.
Non plus.
Putain, non, nous, mais... on a ouvert un Tipeee pour le 1er avril en disant « faut nous aider à financer le 1er avril 2018 » et on a foiré, mais alors bien comme il faut, donc...
Enfin, on l'a ouvert, on sait même pas comment on s'en sert du Tipeee, genre, on a mis trois phrases dessus et puis après on n'avait même plus à le rouvrir le compte.
Ouais, non, mais si, mais attends, là, faut qu'on finisse de valider le compte. Notre conseiller Tipeee nous a envoyé un gentil message en disant « c'est pas assez précis ce que vous avez fait et tout, je pense qu'elle a pas compris la blague, la dame. »
On est le 12 avril, tu sais.
Mais non, mais moi je vais arrêter, c'était vraiment juste pour la farce, parce que Kickstarter m'a beaucoup fait rire cette année. Mais bon, enfin bref. Donc, nous n'avons pas donné sur Kickstarter parce que nous sommes pauvres.
Moi, c'est parce que j'achète le produit fini de préférence. Enfin, pour les jeux vidéo, après, pour d'autres choses...
Après, ouais, il peut y avoir d'autres choses que les jeux vidéo. Enfin, je sais que moi, j'ai déjà donné, par exemple, pour un CD ou pour une web-série, enfin, genre de trucs. Après, bah, c'est pas courant, mais bon.
Bah, on va dire que moi, quand c'est un truc qui doit sortir dans 3-4 ans, j'ai du mal à donner, quoi.
Ouais, je comprends bien, après.
Typiquement, par contre, par exemple, le Ulule de Karim Debbache, là, c'est un truc où j'aurais bien donné, j'ai pas pris la peine de le faire, quoi. Parce qu'en fait, il était déjà rentabilisé.
Ouais, il avait déjà explosé à 200%. Et bah là, du coup, le Indiegogo dont je vais parler aujourd'hui a aussi explosé sa demande de 200%. Il y avait une demande à la base de 80 000 $, on en a plus de 160 000. Il reste encore 24 jours, hein, si vous voulez donner. Et c'est pour donc la Switch Charge. Vous pouvez admirer mon superbe
Switch
anglais.
Switch Charge.
Ça fait un peu nom d'arme dans Metal Slug.
Switch Charge.
C'est un peu ça. C'est une batterie, du coup, qui sert aussi de coque pour la Switch, qui améliore pas mal les performances, en fait, parce que du coup, les créateurs estiment qu'avec, on pourrait tenir environ 10h40 en jouant à Zelda, avec 30% de luminosité, ce qui est pas mal par rapport aux 3 heures à peu près annoncées à la base, je crois, pour jouer à Zelda.
Alors, à 33% de luminosité et avec un casque, c'est-à-dire sans utiliser les enceintes,
ouais,
qui est une condition, on va dire, à peu près normale dans le train, tu fais 4h30 sans trop de problème.
Ah oui, tout de même, ouais. Bah, c'est vrai que moi, je joue souvent chez moi, donc j'ai pas trop le problème, mais...
Zergy est devenu un raton laveur, c'est-à-dire qu'on entend les...
C'est ça. C'est un
Zergy, il faut que tu re-règles ton micro, je pense.
Il y a de chance.
Du coup, le projet a été beaucoup suivi, on l'a même tweeté même avec le dojo, il y a eu des news sur tous les sites spécialisés. Et en fait, le projet de batterie est aussi intéressant parce que, outre le simple fait que ce soit une batterie de 12 000 mAh, je ne sais
ça
pas si quelqu'un peut me...
12 ampères-heure, hein, quand on sait convertir.
Ouais.
C'est assez énorme, hein, je veux dire, 12 ampères, enfin une batterie de 12 ampères, ça commence à faire quand même un bon paquet.
Je t'avoue, je connais pas trop le monde des batteries, donc ça me fait plaisir que tu puisses me prendre là-dessus.
Celle de ton téléphone doit faire 3 ampères.
Ah oui, tout de même.
3000 mAh pour un téléphone, c'est, on va dire, un téléphone peut-être pas haut de gamme, mais voilà, la moyenne, ça doit tourner à peu près ça sur les téléphones normaux.
Bon, après, j'ai pas joué à Zelda sur mon téléphone, mais bon.
Ah oui, non, mais ça, c'est sûr.
Et du coup, l'avantage de cette batterie coque, c'est que derrière, il y a une sorte de pied, comme on pourrait avoir avec le pied de la Switch habituelle. En fait, c'est une sorte de grand pied, comme disait Mortal une fois. Le pied de la surface, il ressemble beaucoup. Donc la console va être bien plus stable et surtout, elle va être totalement protégée. Il y a aussi deux petits encarts pour mettre des cartouches. Au final, c'est pas hyper utile, mais pour ceux qui ont beaucoup besoin de se servir de la Switch en déplacement, ça peut toujours être un plus.
C'est que si c'est un une train batterie sans prise... En fait.
Une batterie externe plus coque de protection plus stockage de jeu plus un kickstand, on va dire un peu plus
ouais
un peu plus
il y a un côté pratique,
il y a une bonne idée derrière. En fait, le gros problème de ce truc là enfin, de tel que je vois maintenant, c'est surtout que ça va pas du tout alourdir ta Switch, c'est-à-dire qu'elle va peser à peu près 40 kilos.
Oui, c'est un peu l'impression que ça me fait à l'écouter, j'ai l'impression qu'elle va surtout quadrupler de volume.
Parce que 12 ampères, enfin une batterie de 12 ampères, ça commence à faire un sacré poids, hein. À mon avis, on va facile atteindre les 600-800 grammes sans
puis
problème.
Si y a un côté coque de protection, ça va aussi redire. Bah, moi, un des points forts de la Switch pour moi, c'est que je peux la foutre dans la poche de ma veste.
Bah justement, il y a une autre image
sur Indiegogo. C'est là que tu comprends que Antix fait du XL, parce que...
Oui, alors là...
oui, aussi.
Sur la page Indiegogo, justement, il y a un gif où on voit le mec qui met sa Switch dans la poche de son costume. Alors, c'est pas un costume, c'est plutôt un blazer, si vous voulez. Et on voit que ça rentre en entier, hein, y a pas de souci, malgré la protection, au final, ça déborde pas sur les côtés au niveau de la manette. Ça peut juste être au niveau de la tablette elle-même.
Ce que disait ta sœur hier soir. Attends, excuse-moi.
Ça déborde pas au niveau de la manette.
Ça déborde sur les côtés.
Comme ma sœur. Et du coup, juste pour finir, les premiers backers pouvaient avoir l'objet pour 75$. Et au final, ceux qui lâcheront sur commerce, qui n'auront pas du tout donné sur Indiegogo, l'auront pour 130$ au plus bas. Ce qui est tout de même une certaine somme, je trouve.
Putain,
enfin, 75, ça pique un peu.
75, là, ça pique un peu. Ouais, là,
ce qui est un
bon,
tiers de la console, mine de rien.
Eh oui, c'est autre chose près. Autant acheter deux et pouvoir alterner de l'une à l'autre.
Sauf que tu peux pas transférer tes sauvegardes.
Ouais, mais après tu peux avoir le cloud ou... On peut toujours trouver une solution.
Non, mais il y aura forcément des solutions pour ça, mais c'est vrai que pour l'instant...
Sinon... tu peux aussi faire attention avec ta batterie, hein.
Ah oui, bah,
mais aussi. Sinon, tu peux aussi... Alors moi, ma femme m'a offert la pochette de transport PDP Mario. En fait, c'est la même que la Zelda, c'est l'officiel. Enfin, l'officiel. Je sais plus comment elle s'appelle, le truc Sheka, machin. Donc c'est exactement la même que celle-là. Sauf que là c'est Mario, c'est pas Zelda. Ce qui fait qu'elle est moins chère, ce qui fait qu'elle est trouvable, ce qui fait qu'elle est en stock chez Carrefour, me dit-on. Je ne t'ai pas demandé ton avis, cochon d'Inde. Il m'énerve lui aussi. Et en fait, dedans, tu peux largement mettre, je crois que tu peux mettre 24 jeux, plus la console, plus éventuellement des joystraps, plus éventuellement une paire de Joy-Con supplémentaires, et tu peux largement caser un câble USB type C. Et la recharger sur ton PC portable, sur les prises que tu vas trouver un peu partout, enfin bon. C'est quand même pas infaisable. Je cherche encore, s'il y a des gens qui ont ça dans un coin, ça m'intéresse. Je suis toujours à la recherche d'un chargeur compact, genre chargeur de téléphone portable, mais qui conviendrait un petit peu mieux à la Switch, notamment, qui serait 15 volts, donc qui permettrait de la charger un petit peu plus vite. Donc si quelqu'un a ça dans un coin, ça m'intéresse, surtout en format compact, parce que dans ces cas-là, moi j'embarquerais quasiment le chargeur dedans, et là, c'est 10 heures sans avoir une prise électrique à côté de toi. Alors, faut être dans un très long voyage. Mmh. Ça me paraît. Voilà. Donc il y a de l'intérêt hein, sur ce truc-là. Je trouve ça intéressant et original. Maintenant, c'est vrai qu'à 130$, fuck quoi. Mmh.
C'est sûr. C'est d'ailleurs en parlant de projet Kickstarter en lien rapport avec la Switch, enfin plutôt la Wii U. T'as l'équipe qui s'occupe de l'émulateur Wii U qui a fait, je crois, un Tipeee ou un truc comme ça pour financer l'émulateur. Et bizarrement, à la sortie de Breath of the Wild, et ben le nombre de dons a augmenté de façon absolument exponentielle. Et les mecs ont déjà réussi à pondre une version stable de. Enfin, une version à peu près stable de Breath of the Wild sur PC, du coup.
Oui, avec l'émulateur complètement embarqué. T'as un exécutable qui embarque l'émulateur plus l'ensemble de l'ISO de Breath of the Wild pour Wii U. Et le truc a l'air de marcher à peu près. De ce que j'ai compris, sur les cartes graphiques Nvidia, il y a des ralentissements, et sur les AMD, il y a des crashs. Voilà.
Ouais. Bon, après, moi, je trouve ça un petit peu dégueulasse, vu que le jeu vient de sortir. Mais c'était assez rigolo de voir certains sites de jeux titrer « Oh, il y a des gens qui ont réussi à faire un portage de Zelda sur PC. » Non, mais les gars, ils l'ont émulé, c'est pas du tout un portage.
Oui, non, mais tu sais, alors la différence entre l'émulation, les portages, et le simple versionning pour le grand public, c'est... je veux dire, là, tu...
Non, c'est sûr.
Tu passes en dessous du radar.
Clairement.
Même pas la peine. Bref, je vais finir ce petit tour de table de l'actualité qui sera très rapide. Alors, sauf si Zergy a une actu, mais comme Zergy est en mode raton laveur, c'est un peu compliqué. On en. On t'entend pas du tout, mon grand. Je suis désolé, mais on t'entend vraiment très mal. Je sais pas ce qui se passe. Mais par contre, c'est extrêmement drôle. Hein, je dois bien reconnaître. Donc, je vais finir. Je sais pas si vous vous rappelez, l'été dernier, Nordic Games qui avait racheté l'intégralité des propriétés de THQ. Qui avait donc formé une entité qui s'appelait THQ Nordic, avait annoncé Darksiders Warmastered Edition, donc l'édition remasterisée de Darksiders qui était sortie le 3 janvier 2010, très exactement dans nos contrées. C'était pour faire suite en fait à Darksiders 2 Definitive Edition, qui était la version Darksiders 2 avec tous les DLC inclus, tous les patchs inclus, tout ça sur un seul disque qui sortait sur PS4 et Xbox One et qu'on n'avait malheureusement pas eu la chance d'avoir sur Wii U. Donc le Darksiders War Mastered Edition avait été annoncé pour Xbox One, PS4, Wii U. Il est sorti sur Xbox One et PS4. Mais malheureusement sur Wii U, bah, on n'avait pas de nouvelles, le jeu avait été retardé et tout le monde avait supposé qu'il avait fini par être annulé parce qu'un jeu Wii U qui sort pas avant le mois de mars 2017, bah, ça allait être quand même un petit peu compliqué, on va dire. Et en fait non, THQ Nordic a confirmé que le jeu était toujours prévu, il y avait juste eu un petit souci d'optimisation sur Wii U et en réalité bah, les mecs étaient prêts à le sortir, donc la date officielle de sortie c'est le 23 juin 2017. Alors ce sera peut-être pas le dernier jeu Wii U, puisqu'on nous a fait remarquer sur Twitter que ce serait peut-être Cars 3, qui dira apparemment...
Quel bon jeu.
Je suis pas sûr, moi. Apparemment, il y a une version Wii U qui était prévue, et le truc est pas déplanifié, en tout cas il est pas annulé encore, mais Darksiders War Mastered Edition sortira bien, au moins aux États-Unis. En Europe, j'en suis beaucoup moins sûr, parce que je ne l'ai vu annoncé sur aucun site web. Il y a que quelques sites anglais qui ont commencé à le lister, à prendre des précommandes. Je sais pas vraiment comment ça va se terminer. En tout cas, il y a bien moyen que ce jeu-là finisse en gros collector, parce que c'est vrai que c'est pas un gros jeu, pas très attendu, c'est juste un remake, donc il y a moyen qu'il y ait très 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 peu d'unités tirées. Donc avis aux collectionneurs, hein, Pab, si tu nous écoutes, je pense que t'aurais intérêt à te précipiter dessus.
Comme Baton Ketos 2.
Comme Baton
Ketos
2.
Il est là.
Ça y est. Effectivement, comme Baton Kaitos 2, alors Twilight Princess, c'est un cas un peu particulier sur GameCube, parce qu'il était sorti un mois après la version Wii, enfin c'était un peu compliqué, mais voilà. Mais voilà, les derniers jeux d'une console ont toujours tendance à monter en valeur, même si c'est pas forcément des jeux extrêmement intéressants.
Non, il est sorti le même jour sur GameCube.
Et il est sorti le même jour sur GameCube.
Pas une semaine après ?
Ah oui, je m'en souviens très bien.
D'accord, bon, je n'ai rien dit.
Moi, il me semblait qu'il est sorti la semaine d'après, sur GameCube.
Après, je ne sais pas. Je peux pas vous confirmer. Je fais confiance à Zergy là-dessus parce qu'il l'a vécu, mais après...
On ira voir sur Wikipédia.
Nous irons confirmer, le juge de paix sera là.
Ouais, une semaine après peut-être, mais pas un mois après.
Une semaine après, ouais, ça m'étonnerait pas. Un mois après, c'est peut-être un peu beaucoup. Bref, nous allons donc nous écouter un petit morceau de la BO de Splatoon 2. Alors je suis désolé, il y a très peu de morceaux dans la BO de Splatoon 2.
Pour l'instant, il y a peu de morceaux.
Un morceau qui s'appelle Incoming. Incoming Wet Floor. Qui est en fait la musique de l'écran d'accueil de la démo du Global Test Fire. Voilà, on se retrouve dans un petit peu moins de 3 minutes. À tout de suite. Et nous voilà de retour.
Tour.
Dans ce gars, t'es pas du tout décalé.
Tour.
Donc nous allons parler de Splatoon 2. Je vous propose de commencer par les petites nouveautés de ce Splatoon 2. Alors malheureusement, je pense qu'on va en apprendre beaucoup ce soir. On peut vraiment parler que de ce qui a été présenté en démo jouable au Global Test Fire d'il y a 2 semaines. Enfin, je sais pas si ça a été un grand succès, mais moi j'ai l'impression qu'il y avait quand même pas mal de monde. Je veux dire, j'ai jamais attendu très très longtemps pour arriver dans une partie.
Ah moi non plus. Hein.
C'est vraiment le truc dépoté.
On attendait 1 minute à peu près.
Ouais, voilà, 1 minute, 1 minute 30 max, et encore 1 minute 30, je pense rarement. Mais ouais, une petite minute et on était bon. Donc il y a quand même une nouveauté un peu rigolote, c'est il y a quelques nouvelles armes. Il y a le double gun. Je sais pas si vous l'avez essayé, ce que vous en avez éventuellement pensé.
Bah alors perso j'ai essayé toutes les armes, double gun du coup il y a la roulade en option un peu spéciale, si je me souviens bien.
Oui c'est ça, oui.
Ouais c'est ça, en fait on peut continuer de tirer en faisant une roulade pour aller un peu plus vite en même temps, histoire d'esquiver ou de se rapprocher rapidement d'un adversaire. Bah franchement, je me souviens que dans Splatoon 1, j'avais eu un peu de mal à mettre aux armes classiques. Je jouais beaucoup au rouleau au début. Après, j'ai commencé à jouer un peu au snipe, mais très
mais
peu
en fait,
au.
En fait, t'avais pas de race, et du coup, tu jouais
ah
au
oui,
rouleau.
Ah oui, mais j'ai toujours dit que j'avais pas de race, vous le savez, je suis pas 90. Mais, et du coup, là, j'ai essayé de jouer avec un peu tout, et au final,
le rouleau. Il assume.
Le rouleau, j'ai été presque déçu. Enfin, pas déçu non plus, c'est classique, mais ça donnait moins envie que les autres armes, parce qu'au final, les Joy-Con. Putain, ça change la vie, hein, parce qu'il y a une différence entre jouer avec le gamepad qui bouge un peu lentement, c'est quand même gros, c'est pas intuitif, ou alors jouer avec les deux Joy-Con dans les mains qui visent assez précisément, encore plus que le gyroscope classique de la Wii U, et qui incite plus à jouer avec les fusils. Donc vraiment, j'ai bien aimé.
Parce que toi, t'as trouvé que viser était un petit peu plus simple. Alors, pour confirmation, hein, mais j'avais un petit doute, parce que moi, j'ai joué au pad pro, j'ai pas du tout joué avec les Joy-Con. On est bien d'accord, c'est le Joy-Con de droite qui fait la visée. C'est le gyroscope du Joy-Con de droite qui sert pour la visée, c'est pas celui
non,
du
non,
Joy-Con
c'est ça,
de gauche.
Oui. Ouais, c'est comme ça. Wiimote.
Exactement. Donc en fait, donc toi t'as joué en mode Joy-Con détaché du coup.
Ouais, je laissais ma. En fait, je trouvais ça plus simple. Enfin, je me disais dans ma tête, j'ai pas essayé du tout en fait en mode tablette parce que j'ai fait qu'une seule session. Donc j'ai pas eu le temps d'essayer différents setups. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout laissé sur la télé, comme ça j'étais vraiment face à la télé, la console qui était juste derrière pour que je sais pas, psychologiquement ça me rassure, pour que le gyroscope soit bien droit par rapport à la console. Et au final, vu que j'ai pas de pad pro, c'était que au Joy-Con.
D'accord. Et du coup, t'as trouvé que les fusils étaient beaucoup plus jouables. Alors c'est vrai que je dois bien reconnaître que manipuler le gamepad ou manipuler un pad pro, c'est pas du tout pareil, c'est pas le même poids, c'est pas. T'as pas du tout la même précision, et même si sur Wii U c'est extrêmement raisonnable, j'ai trouvé ça effectivement très agréable sur Switch. Et pour revenir au double gun, il a aussi un autre avantage, c'est qu'il y a en arme spéciale, il y a l'espèce de jetpack.
Ah oui, c'est vrai.
Qui est alors très marrant à utiliser, parce que ça fout quand même bien la merde, faut quand même le dire. C'est-à-dire que dès que t'as rempli ta jauge de spécial, tu peux aller activer le jetpack, et à ce moment-là tu vas décoller à quelques mètres dans les airs, et on sait que dans Splatoon, le fait d'avoir de la hauteur, en fait, tout ce qui donne de la verticalité te donne un énorme avantage, puisque la gravité, la peinture subit la gravité, donc tes tirs sont systématiquement des tirs balistiques dans lesquels il faut que tu calcules un petit peu le fait que tu vas avoir une retombée de ta peinture, et là, le fait d'être systématiquement en hauteur à, je sais pas, 2-3 mètres de haut par rapport au reste de l'arène te donne un énorme avantage. Le seul truc, c'est que ces fumiers, ils t'enlèvent ton double gun, qui aurait été juste une arme absolument redoutable dans ce cas-là, et ils te mettent le truc explosif là qui tire une cartouche lance-patate qui tire une cartouche toutes les demi secondes. Alors c'est ultra efficace, c'est assez radical parce que tu peins tout ce qui est en dessous de toi au jetpack, mais par contre j'aurais bien aimé garder mon double gun, moi ça m'aurait bien arrangé.
Pour pouvoir choisir sinon.
Pouvoir choisir, ouais, mais là je sais pas, je pense que c'est pour l'équilibre du jeu. À mon avis, ça aurait été un peu violent de te filer le double gun qui a un gros débit. Sachant qu'en plus, t'as peinture illimitée quand t'es en jetpack. Et un autre truc un peu décevant aussi, je pensais que quand le jetpack était vide, c'est-à-dire quand le pouvoir s'arrêtait, tu retombais un peu comme une merde là où t'étais, pour pouvoir continuer à te friter. Mais non, tu reviens au point de départ du moment où t'as déclenché ton jetpack.
Ouais, ça je trouve ça dommage aussi, parce qu'au final, si un ennemi a bien vu par où t'es. Enfin, par où t'as décollé, il a juste à t'attendre en fait, attendre que tu reviennes, et hop, il campe et il tire dessus directement, enfin c'est facile pour lui.
Oui, tu fumes directement, je trouve ça un petit peu dommage. Donc j'ai bien aimé, c'était vraiment fun, quand le premier coup tu fais du jetpack, t'es juste en mode. Enfin, tu te crois le maître du monde, tu sautes partout, tu bourrines comme un sac, ça dure pas longtemps, je sais pas, ça dure genre 10 secondes, quelque chose comme ça. Mais c'est super agréable, je trouve, c'est super agréable. Les ennemis en face, enfin, quand t'as un jetpack face à toi, c'est juste rageant parce que pour arriver à le toucher, c'est juste impossible de viser, quoi. Le truc il est pas complètement stable dans l'air, il fait des petits haut-bas, donc pour arriver à le viser, c'est juste la galère. Donc je trouvais ça super rigolo, sauf que, ben voilà, le changement d'arme, le fait de revenir. Alors je sais que c'est de l'équilibrage, hein, mais moi ça m'a fait un petit peu chier. C'est personnel, mais c'est vrai que ça m'a un petit peu cassé les couilles, ce truc-là. Alors je sais pas si, par rapport à cette bêta, il y aura des modifs sur le jeu final, je suppose que oui. Parce que de toute façon, il y aura d'autres choses qui seront révélées entre deux.
Après, le truc, c'est que là, c'était juste une bêta, comme tu viens de le dire, et au final, on a bien pu voir que Splatoon 1 a beaucoup évolué entre le lancement et la version finale qu'on a aujourd'hui entre nos mains. Donc, j'espère qu'une fois que les joueurs auront bien testé le jeu en ligne, qu'ils vont vite s'apercevoir des problèmes qu'il peut y avoir, qu'ils vont assez vite l'équilibrer. Enfin, ça serait une bonne idée.
Oui, c'est évident, sachant que de toute façon, Splatoon, avec Antix, on a quand même été assez privilégiés, puisqu'on a eu l'occasion d'essayer la pré-version un an avant la sortie. Et c'est vrai qu'entre cette version-là, la version du Global Test Fire, la version de lancement et la version actuelle, il y a eu quand même une énorme évolution. Enfin, c'est pas énorme. C'est du détail, mais c'est vrai que les visées ont changé, la gestion de la gravité a changé, il y a un certain nombre de choses qui ont changé, et c'est pas désagréable du tout. Dans l'absolu, tous ces changements-là ont vraiment été bénéfiques. Alors je sais pas si Nintendo a profité du retour des joueurs pour améliorer les choses, ou si vraiment c'était juste, bon, ben, on n'avait pas prévu ça, ça faisait partie des finitions. En tout cas, j'espère qu'ils nous écouteront pour le Global Test Fire de Splatoon 2, parce que, malheureusement, en termes de défauts, on a quand même pas mal de choses à dire. Voilà, je sais pas si... J'ai pas trouvé, par exemple, les terrains super originaux. Je sais pas ce que t'as eu l'occasion de faire, toi, Drosgar, comme terrain.
Alors, des terrains, il y en a que deux. Normalement, il y a le skatepark... Non, pas le skatepark, c'est la salle d'escalade. Enfin, je me souviens pas très bien.
T'as la salle d'escalade, oui, et tu as l'allée salée.
Mais en Splatoon, les terrains sont pas hyper marquants non plus, parce que à moins qu'ils soient vraiment très aériens, qu'ils changent vraiment de structure, si c'est juste un changement de skin, on va pas s'en rendre compte, parce que déjà, bah, on le recouvre assez vite, c'est quand même le but du jeu.
C'est vrai que globalement, c'est-à-dire on a fait un truc super original, on a mis des graphismes de ouf partout, des textures de malade dans tous les coins. Oui, mais enfin, les mecs, ils peinturent tout, donc ça sert à rien, mec.
Ouais, c'est vrai, du coup, c'est complètement con. Enfin bon, après, c'est joli, hein, c'est sympa de le voir comme ça, mais bon, le script, t'avais pas le temps d'en prendre un, parce que ça part direct, tout le monde court, et déjà, tout est dégueulassé par terre, là. Il faut nettoyer, prendre des skins.
C'est ignoble comme jeu, quand tu réfléchis bien. L'objectif, c'est quand même de tartiner le plus possible la gueule des mecs d'en face. Tartiner le plus possible le terrain, c'est quand même assez... J'adore ce putain de jeu pour ça, cet aspect ultra bordélique. Je sais pas, sur Splatoon 2, là, tu retrouves vraiment tes marques très très vite, c'est-à-dire le truc qui fait 3, 2, 1, et boum, tout le monde part dans son coin en commençant à bombarder de la peinture partout, en foutant absolument partout. Je trouve ça assez jouissif comme jeu, dans ce principe-là, de retrouver cet aspect ultra bordélique, vraiment...
Du coup, ça reste très très proche de ce qu'on a connu avec le 1, finalement.
Oui, sur le principe, c'est toujours pareil, hein, ça fait 3-2-1, t'as le départ, tu commences à tartiner dans tous les sens, au bout de 2-3 secondes que t'as bien bourré, tu pars dans l'encre, histoire d'avancer un petit peu, tu ressors, tu commences à bombarder les ennemis, les approches sont à peu près toujours les mêmes, les armes ont changé, j'ai l'impression que la gestion de la gravité a un petit peu changé, c'est-à-dire que j'ai l'impression que les contrôles sont un petit peu plus flottants, c'est-à-dire que quand on saute, on est un peu plus... Voilà, on tombe un peu moins vite, on est un peu plus léger. Alors, je sais pas si c'est une idée ou si c'est juste... voilà. La visée... j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu augmenté la sensibilité de la visée au gyroscope.
Et du coup, c'est finalement, il n'y a pas de grosses nouvelles mécaniques en fait, par rapport au premier.
Bah, pour l'instant, non. En tout cas, sur ce qu'on a fait, c'est-à-dire le mode Turf War, finalement, le mode guerre des territoires, les deux cartes qui étaient disponibles, c'était que de la guerre du territoire. Il n'y avait pas de... tous les nouveaux modes pro qu'il y a eu sur la version Wii U ces derniers mois, tout ça on n'a pas. Donc là c'était rendu Turf War, effectivement le Turf War il a quasiment pas bougé. Si, il y a quand même une énorme nouveauté, maintenant il y a deux charbitres.
Oh, il est trop mignon le petit charbitre.
Et le petit charbitre il est mignon. Il est tout mimi.
Il est là pour bénir notre TL.
Fondamentalement il n'y a pas de grosses nouveautés sur le multi, il n'y a pas des choses qui pourraient nous dire ce Splatoon 2, par les armes et les nouveaux terrains, finalement, on est en terrain connu, en fait.
L'histoire, peut-être.
Alors, peut-être que l'histoire, le mode solo...
C'est ce que j'étais en train de me dire, ouais, le mode solo.
Alors, le mode solo sur Splatoon 1, c'est vrai que ça a fait un petit peu penser à un truc qui a été rajouté un peu à la dernière minute pour justifier le fait de le sortir en boîte.
Ouais, je sais même pas s'il y a vraiment besoin de ça, mais c'était quand même un mode qui était... plutôt bien conçu. Hein.
C'était sympa, mais c'était très court. Je veux dire, en 2 heures, t'as fait le tour à peu près.
Ça reste un jeu multi, en fait.
Fondamentalement, ça m'avait surpris même qu'il y ait un mode solo. Après, le mode solo est un très bon didacticiel tutoriel. Apprends à maîtriser un peu mieux le jeu, la visée, le truc, avec des puzzles rigolos. Hein. J'ai vraiment pas de soucis là-dessus.
Même le boss final, finalement, avait plutôt marqué les esprits, j'ai l'impression, parce qu'il y en a qui disaient qu'il était assez dur, que la musique était cool et tout. Moi, j'avais bien aimé le boss final.
Moi, j'ai bien aimé le mode solo, de manière générale. C'est agréable. Après, c'est, voilà, tu passes une après-midi dessus, maximum, et ensuite, tu fais du multi, quoi, on va être clair. Il n'y a pas vraiment de justification, ni même à le recommencer dans un... Je sais même pas si on peut le recommencer dans un niveau de difficulté supérieur.
Non, je crois pas, à part avec les amiibo où t'as des défis supplémentaires, mais...
Voilà, mais les défis supplémentaires avec les amiibo prennent presque plus de temps que le mode solo. Hein. Parce que c'est pas si évident que ça d'arriver à les maxer. Mais voilà, donc ce qu'on a vu sur le Global Test Fire, en tout cas, il n'y avait pas effectivement de nouveautés majeures. Il y a des nouvelles armes, il y a des nouveaux terrains, Il y a une façon de jouer un tout petit peu différente, des contrôles qui sont un petit peu affinés, on va dire ça comme ça. Les nouveaux pouvoirs spéciaux ont quand même l'air d'être assez marrants, sur le principe. Alors là, on a vu, il y avait de la bombe multi. Il y a quand même deux ou trois nouveautés un peu rigolotes, mais c'est plus des ajustements d'interface, en fait, qu'on aurait très bien pu être sur le 1. Par exemple, aujourd'hui, tu vois... quand tu lâches une bombe, tu vois le niveau de la jauge sur ton dos, ce que ça te prend exactement,
ouais,
de lâcher une bombe. T'es plus au pif, en fait.
C'était pas au pif avant.
C'était un peu au pif quand même.
Non, tu voyais sur ton dos la quantité de peinture que ça t'enlevait.
Oui, mais tu voyais pas t'avais pas une jauge qui t'indiquait exactement si tu pouvais la lancer ou pas.
Là, j'avoue, je me souviens plus. Moi, je savais que t'avais le réservoir sur le dos et tu pouvais savoir, en fait.
Bah moi, c'est un des trucs qui m'a frappé. Donc,
alors, c'est vrai que c'était rarement indiqué dans l'interface, quoi.
C'était pas ultra obvious, là, c'était, je trouve, beaucoup plus évident. Alors, ça existe peut-être sur Splatoon 1, corrigez-moi si je me trompe.
J'avoue que là, ça, c'est un petit peu vieux pour moi. Mais du coup, moi, ça... Enfin, pour l'instant, ce que vous en avez vu, ça me laisse penser à ce que j'avais dit, je crois, quand le jeu a été présenté, c'est que, finalement, ce Splatoon 2, c'est une version, enfin, ce qu'on on dirait une version 1.5, je trouve ça toujours un peu méchant comme façon de dire, mais en gros, c'est vraiment. C'est le cas. Mais du coup, en fait, plutôt que de ressortir le 1 qui était sur Wii U, ils ont essayé de faire un nouvel épisode en tant que tel. Alors peut-être qu'on apprendra qu'il y aura des nouveautés pendant le direct, genre un nouveau mode solo.
Il y aura quand même au moins une nouveauté, parce que là, on a l'air d'être un petit peu vache comme ça, mais quand même, faut pas oublier, il y aura un mode local.
Oui.
Avec plusieurs Switch, c'est quand même.
Je pense que ça va être le gros truc de cet épisode, et à mon avis, pourquoi ils ont fait un 2, c'est pour avoir un gros mode local et encourager les gens qui ont déjà le premier d'acheter le suivant, en fait.
Parce que jusque-là, le mode dojo, c'était pas terrible non plus, hein. Enfin, ça fait pas honneur à l'autre nom et au nom du site, mais bon...
Le mode dojo est sympathique, mais pas indispensable, et surtout, le mode dojo a un énorme défaut. C'est que s'il y en a un qui joue au pad pro et l'autre qui joue au gamepad, il y en a un, il a une visée bien handicapée. Hein.
Ça, c'est sûr.
Parce que jouer au pad pro sur Splatoon, c'est en jouant au mode dojo de Splatoon 1 que je me suis rendu compte que les mecs avaient oublié de mettre un gyroscope dans le pad pro et que j'ai vraiment juste pas compris. Ça m'avait pas du tout frappé avant, il y a aucun jeu sur lequel c'est absolument indispensable d'avoir un gyroscope, sauf Splatoon, où jouer sans gyroscope c'est juste la méga galère.
Ah, c'est là où tu te rends compte que, mine de rien, le gyroscope pour viser et affiner sa visée, c'était quand même plutôt pratique. Hein.
Bah, ce qu'on parlait pour Splatoon 1, de dire... là, c'est la première fois pour moi qu'il y avait un FPS... un FPS TPS sur console qui avait un avantage sur le PC, c'est que tu avais deux sensibilités de visée qui étaient disponibles en même temps. Et à la fois ton stick droit pour, on va dire, faire des mouvements un peu brusques, et le gyroscope pour faire des mouvements plus fins. Et ce qui fait que sur PC, t'as pas ça, t'as pas deux souris réglées différemment à portée de main. Alors oui, t'as un bouton pour ajuster ta sensibilité de souris, mais c'est seulement sur les souris très haut de gamme, et c'est pas inclus directement dans le jeu, et t'es quand même obligé de faire une action pour pouvoir switcher, alors que là, tu peux faire les deux en même temps. Ça faisait partie, je trouve, des gros arguments de Splatoon, c'est-à-dire que les gens qui étaient habitués au FPS PC mettaient certes un tout petit peu de temps à s'adapter aux commandes, mais une fois qu'ils y étaient habitués, c'était compliqué de revenir en arrière. Très 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 compliqué. En tout cas, sans aide à la visée et tout ça, c'est extrêmement compliqué. Bref, pour revenir sur Splatoon 2, il y a quand même un défaut majeur. Enfin, on va dire qu'il y en a deux.
L'absence de cartes, enfin l'absence de deux écrans.
Alors, je rappelle qu'on en avait discuté il y a quelques semaines de ça, quelques mois, de dire, tiens, ça y est, Nintendo abandonne le double écran après nous avoir biberonné pendant pratiquement 13 ans maintenant.
C'était quoi? C'était 2005 la DS, non?
2004, 2005, ouais. 2004 ouais. Peut-être 2005.
2005.
Bref. Ouais, 12 ans. 12
après ans. Nous avoir biberonné pendant 12 ans au double écran, que ce soit sur DS, sur 3DS ou sur Wii U, tout d'un coup il l'abandonne.
J'avais 10 ans.
C'est pas possible. Dans ce gars, c'est pas possible, tu sors.
Ouais.
Mais on avait dit, tiens, il y a des jeux quand même où ça va être un peu galère parce que le double écran, mine de rien, sur un Splatoon, c'est quand même ultra pratique, quoi. Tu vois, en un coup d'œil, tu sais où est-ce que t'en es d'un point de vue domination du territoire. Et puis, tu touches l'écran pour aller te téléporter sur tes partenaires, c'est quand même super pratique. Là, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'est un peu galère, hein, Drosgar.
Alors, le système de téléportation est... pas si mauvais que ça. J'ai pas trop vu les retours des gens justement, mais en fait pour ceux du coup qui ont pas pu faire le test, on peut afficher la map avec le bouton X, je crois.
Oui, ce qui est ignoble aussi, on en parle juste après.
Moi, ça m'a fait bizarre les 2-3 fois, les 2-3 premières fois où j'ai appuyé dessus, au final, bon, on s'y habitue assez vite, je trouve. Après, c'est aussi parce que c'est que le deuxième jeu que j'ai sur Switch, donc, enfin, troisième, donc c'est pas non plus flagrant. Si tous les jeux de Switch utilisent le bouton B, utilisent le bouton X pour sauter, ça va me faire bizarre. Là, pour l'instant, ça me choque pas plus que ça. Et en fait, lorsqu'on affiche la carte, on peut rejoindre, du coup, on a 3 coéquipiers qui sont avec nous sur la carte, et suivant le bouton de la croix directionnelle qui est sur la partie gauche, enfin, soit la partie gauche de la manette, soit le Joy-Con de gauche, on peut se téléporter directement à notre allié en question. Donc l'allié qui va être à gauche de l'écran va avoir la touche de gauche, l'allié qui va être à droite va avoir la touche de droite, etc. Et en fait, une fois qu'on a un peu chopé le réflexe, on peut vite voir, suivant les flèches, où se trouvent les alliés et sur quel bouton est-ce qu'il faut appuyer.
Toi, t'arrivais à le voir? Je suis désolé, mais moi, j'arrivais pas à le voir.
Et ben, en fait, ça se fait... Enfin, j'ai pas joué beaucoup, du coup, j'ai joué qu'une heure, même pas. 45 minutes à peu près. Et au final, au bout de 3-4 parties, on s'en rend assez vite compte et ça devient du réflexe de se téléporter. Et la carte, tu la laisses s'afficher quoi? Une seconde? Une seconde et demie maximum?
Ça, je suis d'accord, tu la laisses pas. Au bout d'un moment, tu finis par le... Enfin, ce qui m'ennuie, déjà, la carte, elle est pas accessible en permanence. T'es obligé d'appuyer sur un bouton.
Ça, mais déjà, c'est pas grave non plus, au final, tu te concentres plus sur le jeu que sur l'entièreté de la carte.
On est d'accord. Maintenant, il y a quand même un problème, c'est que la carte, elle est pas affichée en transparence. Donc, elle te bloque complètement ta vision.
Ça, oui.
Et ça, je trouve ça juste là, c'est un défaut d'ergonomie. Je veux dire, tu appuies sur X, tu vois plus la partie, tu sais plus où t'en es. Alors, je sais que la plupart des gens se servent de la carte pour aller se projeter sur la map au moment où ils spawnent, en fait, au moment où ils reviennent au point de départ. Ouais. Donc, du coup, c'est pas fondamentalement choquant. Il y a un raccourci super pratique d'ailleurs pour revenir au point de spawn, c'est-à-dire tu fais juste X flèche du bas et tu reviens automatiquement au point de spawn. Donc, ça, c'est plutôt bien. Maintenant, il y a un deuxième défaut, c'est que la carte ne s'enlève pas quand tu as sélectionné le mec vers qui tu te téléportes. Faut réappuyer sur X.
Ah ouais, ça,
c'est très con. Moi, je m'en souviens bien, parce qu'il y a 2-3 fois, je me suis dit, bon, ça y est, je me téléporte. Puis tu sais, que le réflexe du gamepad, tu vois, t'appuyer sur le truc, tu reviens sur la télé, puis tu fais, ah oui, non, mais ça marche pas, faut appuyer sur X. Voilà.
Mais du coup, il y a un autre défaut, je trouve, en fait, qui a pas forcément été corrigé, enfin... Pour moi, c'est un défaut. Après, c'est inhérent au jeu et ça dépend vraiment du rapport du joueur avec le jeu. Au final, c'est que les parties sont quand même très courtes et qu'une fois qu'on commence à se faire un peu dominer, c'est mort. Enfin, ça snowball, comme disent les joueurs de LoL. Je joue pas à LoL, mais bon, j'ai assez de copains qui en parlent. Et au final, bah, cet effet boule de neige, c'est assez embêtant parce que pour peu que tu sois avec une équipe qui n'est pas vraiment coordonnée, bah du coup, il y a un autre défaut qui ressort aussi, c'est le manque de communication entre les joueurs. T'as aucune icône, t'as rien pour dire, à part le classique par là, ou le classique super. Et au final, c'est ça qui est le plus gênant, c'est que ça reste un jeu multi, mais que tu sois seul ou avec tes alliés, ça change rien, parce que tu peux rien faire avec eux en fait. Enfin, j'ai l'habitude de jouer au FPS multi, genre Overwatch ou Counter, et là, bah, on a quand même un chat, on peut parler, ok, c'est sur PC, mais t'as toujours des petits emotes qui vont pouvoir essayer de faciliter un peu les discussions. Là, ok, la partie rapide, donc c'est compliqué de mettre ça en place, mais derrière, ça manque, parce qu'il y a un manque d'esprit d'équipe.
Bah, d'où, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent, que le Mumble du dojo est ouvert, si vous avez envie, enfin, si vous avez votre PC portable à côté de votre Switch, ou votre téléphone mobile, d'ailleurs, à côté de votre Switch, ou votre tablette à côté de votre Switch, vous pouvez installer l'application
Mumble. Vous bougez votre Switch à côté de votre ordinateur aussi, hein, vous rappelle que vous avez la console pour.
Tout à fait, et vous avez parfaitement le droit de venir chatter en live, exactement comme on est en train de le faire, en chat vocal, sur le Mumble du dojo. C'est complètement ouvert, hein. Il y a suffisamment de slots disponibles pour que tout le monde puisse venir pour organiser vos parties. Il n'y a absolument aucun problème, c'est en libre service 24/24/7/7, sauf quand le serveur Mumble est planté, ce qui arrive une fois de temps en temps quand même. Mais il n'y a pas de souci. Je te rejoins là-dessus, mais je trouve que, un petit peu comme sur la version Wii U, où tu n'avais pas non plus le chat vocal, et pas vraiment de possibilité d'indication, à part effectivement les classiques super, par là, attention, enfin les conneries comme ça. Je trouve pas ça ultra gênant. C'est gênant si tu veux commencer à essayer de jouer un petit peu à haut niveau, entre guillemets.
Bah, même rien que des parties compétitives, en fait, vu que t'as quand même une notion de perte ou de gain de points, moi je sais que dans ce genre de jeu, ça m'embête vraiment de perdre des points, même si c'est rien, c'est un jeu, je suis pas joueur pro ni rien, mais psychologiquement ça me bloque, et du coup j'aime bien... Bah, gagner, ou en tout cas donner le meilleur de moi-même, et c'est vrai que si derrière je peux pas communiquer avec mes alliés, bah, c'est un des trucs qui m'a fait un peu lâcher le jeu à l'époque. Donc j'espérais que ce soit un défaut qui allait être réparé à ce niveau-là.
Ce sera peut-être avec les abonnements payants, puisqu'il y aura peut-être du chat vocal.
Oui, avec l'application, était, sinon on a l'application mobile.
Voilà, c'est ce qui était sous-entendu. Moi, je trouve pas ça gênant parce que c'est un peu comme. Je connais des gens qui jouent à Rocket League et moi, j'y joue occasionnellement, voire très occasionnellement. Ouais. Moi, le fait de pas avoir de chat vocal, ça m'arrange parce que de toute façon, quand t'as le chat vocal qui est activé, y a à peu près des blagues sur ta mère toutes les 2 minutes. Tu te fais traiter d'enculé toutes les 5 minutes. Enfin, je trouve pas ça super intéressant alors que finalement, quand les parties sont muettes. T'es un peu obligé de jouer à l'instinct finalement, donc oui, t'as beaucoup moins de teamplay, de synchronisation de joueurs ou de choses comme ça, mais t'es un peu plus obligé de jouer à l'instinct, t'es un peu plus obligé de t'adapter à ce que font les autres. Moi, je trouve pas ça forcément gênant. Et même au contraire, je te dis, la partie silencieuse dans laquelle effectivement tu joues pas contre des IA, mais tu joues contre des vrais joueurs humains qui eux aussi sont obligés de s'adapter, je trouve que c'est plutôt. Moi, je trouve que c'est plus intéressant dans certains cas. J'ai fait des parties avec du chat vocal sur certains jeux, mais je suis toujours revenu en arrière et j'ai toujours fini par le désactiver parce que ça me saoulait d'entendre les autres connards parler à côté de moi, quoi.
Ouais, mais après, il y a toujours le juste milieu entre le chat vocal total, où justement tu peux entendre des gamins de 12 ans qui disent d'aller insulter ta mère, et les emotes qui sont vraiment précises avec des regroupements, avec, enfin, où il y aura un large panel d'emotes.
Ouais, un truc un peu précis, on est d'accord, mais par exemple, je reprends l'exemple de Rocket League parce que je connais un petit peu le truc, mais. La plupart des gens, quand ils sont en train de jouer, n'ont pas le temps d'utiliser les emotes parce que même si elles sont sur des raccourcis, bah, c'est pas si évident que ça. Et donc, du coup, tu finis juste par utiliser celles qui disent bravo ou un enfoiré parce que tu t'es pris un but ou t'as été en marqué un. Voilà, les vrais trucs en jeu utilisés en disant ah, vite, faut déborder sur l'aile droite sur des jeux qui vont vite comme ça. Les parties font 2, 3, 4 minutes. Je trouve que ça a peu d'intérêt. Après, j'ai l'impression aussi. Mais c'était un peu pareil pour Splatoon 1, mais ce sera probablement forcément plus vrai sur Splatoon 2, que Nintendo veut plutôt privilégier les équipes qui jouent en local, finalement. Je me suis jamais autant barré sur Splatoon que quand j'avais les 3 mecs de mon équipe qui étaient à côté de moi, et qu'on était tous en train de regarder sur les écrans les uns des autres, en disant « Ah, mais tu fais quoi, t'es là, ok, j'arrive. » C'est quand même 10 fois plus marrant, et je trouve que le contact passe beaucoup mieux, surtout sur des jeux très courts. Rocket League, c'est pareil, en LAN, c'est quand même beaucoup plus marrant que sur Internet. Tu peux essayer de faire ce que tu veux. Sur des jeux comme ça, très rapides, très nerveux, avec des sessions de jeu extrêmement courtes, je trouve que c'est beaucoup plus adapté à un format LAN, finalement, qu'à un format online. Alors, c'est pour ça que le turf war à faire tout seul sans chat vocal où finalement tu joues pour ta gueule parce que t'essayes de marquer le plus de points possible pour ta tronche, moi honnêtement ça me dérange pas. Maintenant je peux comprendre que ça rebute des gens.
Moi j'ai toujours trouvé que le turf war était pensé comme ça et que c'était plus les modes pro qui nécessitaient des bonnes coordinations d'équipe, des stratégies. Le turf war c'est vraiment tu pars un peu dans ton coin, tu te checkes un coup d'œil et tu vas filer un coup de main de temps en temps, mais. C'est vraiment le mode je me fais une partie pour m'amuser, quoi.
Oui, c'est un peu ça, c'est finalement presque le mode entre deux. Je crois que c'est Méduse qui avait dit, moi je le prendrais en dématérialisé le jeu. Parce que ça me parlait plus de dire entre deux parties d'un truc un peu sérieux ou machin, je lance le truc, j'ai un quart d'heure devant moi avant de reprendre le bus ou de me barrer ou de faire je sais pas quoi. Bah pouf, je me fais un Splatoon, ça dure. 3 parties de 5 minutes et puis c'est réglé, quoi.
Bah, c'est ce que j'avais fait pour celui sur Wii U. Hein. Et hop, je vais me faire une partie, hop, je vais lancer le jeu. Et je l'aurais pris en format physique. Je pense qu'il y a des fois, en fait, je l'aurais juste pas lancé parce que flemme de sortir le CD, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu le Turf War, c'est vrai que c'est un peu une espèce de mode apéro, finalement. C'est-à-dire que tu peux le lancer, faire 3 parties, t'arrêter, c'est pas gênant. Enfin, t'es pas besoin d'être vraiment à fond dedans pendant 10 rounds, 15 rounds, 20 rounds sur la même carte. Je sais que des jeux comme Counter-Strike ou Day of Defeat, déjà les parties sont longues, c'est 45 minutes, un round, et t'es obligé de faire l'aller et le retour si tu veux vraiment faire un score un peu honnête et puis que ce soit un peu rigolo à jouer. T'es obligé de faire des sessions longues. Là, honnêtement, là, tu recharges la partie avec les mêmes personnes 2-3 fois, puis après tu te casses, je trouve pas ça gênant.
Ouais, puis en plus, ce que t'as dans le mode Turf War que t'as pas dans les modes pro, c'est que. Enfin, plutôt ce que tu. Parce que tu as dans le mode Turf War et pas les modes pro, c'est qu'en gros tu gagnes toujours des points même si tu perds dans le Turf War, alors que dans le mode pro, si tu perds, tu perds des points. Donc l'enjeu est vraiment pas le même, et c'est là où tu vois que c'est vraiment un mode casu pour le fun, pour ceux qui veulent juste s'amuser sur Splatoon et pas faire du gros niveau. Clairement, les modes, je pense penser à e-sport, c'est les modes pro, pas les modes Turf War.
Non, c'est clair, le Turf War, il est vraiment pensé comme du... pratiquement du jeu d'arcade, finalement. Parce qu'on est, vraiment là-dedans, hein. Tu mets une pièce dans le jukebox, tu joues ta partie, au bout de 3 minutes, c'est fini. Tu gagnes, tu perds, mais t'as gagné des points à la fin. Et voilà, c'est vraiment très 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 arcade. Alors que c'est vrai que le mode pro, tu sens quand même le truc qui est plus étudié pour les joueurs pro, quoi. Effectivement, t'as plus de place pour la stratégie. T'es quand même obligé d'être un minimum coordonné, ça je suis d'accord. Et là-dessus, Drosgar, je te rejoins. Faire du mode pro sans avoir un chat vocal à côté, là je suis d'accord, c'est un peu limite. Mmh. C'est un peu dommage. Sauf ouais. Si t'es vraiment très 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 bon.
Ça reste un peu handicapant.
Bah même si t'es très bon, tu peux pas gagner pour ton équipe, quoi, parce que le but c'est pas de tuer les mecs d'en face, c'est de contrôler des zones, contrôler un objet. Et ils ont toujours fait en sorte que t'aies besoin du soutien de tes copains pour pouvoir passer, quoi.
Alors après, il y a aussi des situations un peu... Enfin, c'est le genre de jeu qui est assez instinctif dans le sens où t'as des situations un peu évidentes. C'est-à-dire, le mec est sur la tour en train de faire ça, c'est évident que tu vas lui apporter ton soutien quand t'es dans son équipe, et que tu vas pas aller te barrer à l'autre bout de la map pour tenter un truc, quoi. Quand même quelques situations, quelques réactions, quelques réflexes, on va dire, qui sont un peu évidents. Après, c'est sûr que c'est... Je suis d'accord, hein, c'est moins facile de se coordonner, mais... Je sais pas. Je trouve ça pas forcément extrêmement gênant. Enfin, pas toujours extrêmement gênant, en tout cas. Je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter sur ce Splatoon 2. Alors, c'est vrai qu'on va en apprendre un peu plus ce soir, mais là, globalement... Si on reprend, donc Antix, t'as pas pu faire le Global Test Fire parce que t'avais d'autres choses à faire.
J'étais en voyage à Lille.
Oh, c'est beau.
C'est très très beau. Hein. On avait joué à Zelda aussi le vendredi soir. Hein.
parce que normal.
Bah en fait, je devais faire quelque chose, on m'a posé un lapin, et du coup j'ai joué à Zelda et une heure après à la fin du Test Fire, je fais ah oui merde, il y avait ça. Je suis en train de jouer à Zelda.
C'est pas grave. Mais du coup, Splatoon 2, tu penses le prendre quand même, même si tu l'as pas essayé. Il y a suffisamment de choses qui t'attirent pour remettre le couvert, ou tu te dis finalement non, je vais peut-être attendre une baisse de prix, une version des maths pas trop chère.
Alors une baisse de prix, une version des maths pas trop chère.
Non mais voilà, si il sort demain matin à 30€, est-ce que tu le prends?
Oh bah oui, j'achète. Là, pour le coup, j'attends de voir s'il y a pas des bonnes nouveautés. Mais j'avais beaucoup aimé le premier, qui était un très bon jeu pour tuer un petit peu le temps. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, forcément j'ai arrêté. Mais comme j'arrête absolument tous les jeux au bout d'un moment, c'est que je pense qu'on peut pas passer 3000 ans sur le même jeu. Et Splatoon en soi, c'était quand même une très bonne surprise sur la Wii U. Je pense que ce sera un très bon second épisode. La seule crainte étant que ce soit un petit peu pareil et que... Finalement, il n'y a pas trop de plus-value, donc j'attends de voir ce qu'on va avoir ce soir. Sachant que le line-up de la Switch étant ce qu'il est à l'heure actuelle, et je pense que Zelda, à mon avis, je l'ai fini à la fin de la semaine, parce que je commence à avoir envie de le finir aussi. Il y a des chances que oui, je me le prenne pour avoir un petit peu quelque chose à jouer sur Switch. Peut-être dans le métro aussi, avec un peu de chance, s'il y a du contenu solo sans online.
Bah, ou si tu croises des gens dans le métro qui ont une Switch. Hein.
Ah ouais, ça arrive rarement que je vois les gens jouer à la Switch dans le métro. Je vais être le seul taré à faire ça. En même temps, j'ai 20 minutes de métro, donc faut que je m'occupe.
Ouais, non, mais c'est clair, mais moi j'ai moins de temps que ça, donc c'est un peu emmerdant. Mais je sais que Splatoon 2, c'est typiquement le jeu auquel je pourrais éventuellement jouer, effectivement, avec mes collègues entre midi et 2.
Bah, moi aussi, là j'en ai 3-4 qui ont la Switch, donc.
Avec Mario Kart.
Bah ils ont pas, bah non il est pas sorti. Mais ouais Mario Kart, entre Mario Kart et Splatoon 2, il y a moyen, s'ils sont un peu motivés, qu'on se fasse des petites parties à la pause déjeuner, comme on fait un jeu de société déjà à l'heure actuelle quoi.
Ouais complètement. Drosgar, est-ce que toi t'as été convaincu ou tu vas le prendre ou tu te dis de toute façon je le prendrai parce que finalement effectivement, comme disait Antix, hein, c'est un peu le jeu en plein milieu de l'été, c'est quand même sympa entre deux parties d'autre chose. C'est un peu le jeu apéro, paye pas de mine mais qu'on voit bien.
Bah, à la base déjà je devais pas acheter la Switch, je devais acheter qu'à Noël. Donc maintenant que j'ai la console, autant acheter les jeux.
Il est malin.
Non mais forcément, je suis un pigeon.
Mais oui t'es un pigeon, bah voilà, c'est tout, on l'avait dit. Hein. Donc de toute façon toi tu vas le prendre quoi qu'il arrive.
Ouais je vais prendre, mais le problème c'est que Splatoon, comme Mario Kart, comme le possible portage de Smash sur Switch, comme ça souffre encore du... Non, mais pas ça. Ça souffre encore du syndrome du bon jeu de Wii U. Donc au final, un bon jeu sur une console qui s'est pas vendue. Et forcément, bah, si j'ai des potes qui achètent la Switch et qu'ils l'achètent sur Switch, bah, ça me poussera un peu plus à l'acheter. Alors que la Wii U, déjà, j'ai des potes qui en ont.
Un mouton.
Bah ouais, mais faut aussi jouer là où tes potes jouent. C'est comme tous les gamins qui jouent à Call of et qui vont acheter la Xbox ou la PS4 pour ça.
On est d'accord.
Donc au final, je vais me le prendre. Comme Mario Kart, là, dans 2 semaines, je me le prends aussi. Alors que j'ai...
Alors Zergy, qui n'a pas beaucoup... Enfin si, qui a donné son avis sur un truc, qui disait, oui, l'inversion du bouton X et du bouton B, c'est un scandale. Je suis d'accord. Est-ce que Splatoon 2, avec ce que tu as testé, tu vas le prendre? Est-ce que tu vas le prendre parce que de toute façon tu vas le prendre? Ou est-ce que tu vas le prendre parce que tu es un gros mouton comme Drosgar? Bien frisé.
Je sais pas. Peut-être plus tard. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. C'est un peu comme Mario Kart 8, quoi.
Ouais, donc finalement, plutôt réflexe antique. C'est-à-dire, s'il y a des nouveautés qui t'intéressent et qui sont présentées, pourquoi pas? Tant qu'il n'y a pas plus de nouveautés que ça, éventuellement, mais quand, un petit peu plus tard, quand le jeu sera un peu plus fini, quand tu auras peut-être un peu plus de modes de jeu dispo, parce que s'ils nous refont comme Splatoon 1, il va quand même y avoir pas mal de nouveautés au fil de l'eau.
Ah oui, d'ailleurs, c'est un truc qui m'intéresse sur cet épisode.
C'est vrai que Splatoon 1, on sentait qu'il n'était pas vraiment fini quand il est sorti. Hein. Il n'était pas vraiment complet.
Je pense qu'ils l'ont fait à moitié volontairement, dans le sens où c'était aussi une façon de tester est-ce qu'on peut faire un jeu sur la durée. Et comment est-ce que le modèle est viable? Est-ce que ça plaît? Est-ce que j'en suis?
Et étonnamment, Street Fighter V s'est bien vautré quelques mois plus tard en essayant de faire la même chose.
Oui, mais Street Fighter V l'a mal fait.
Ah bah oui, mais
pour avoir fait les deux.
C'est pas évident de déterminer qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas dans ce modèle-là.
Ah bah moi j'en ai trouvé un pour Street Fighter V. Pendant un mois et demi, le jeu a pas été mis à jour. Alors qu'il était, lui, pour le coup, vraiment pas complet à la sortie. Il y avait même pas un mode solo complet.
Ouais, je pense qu'en fait c'est surtout ça. Hein.
En fait, le truc c'est que Splatoon est sorti avec le strict minimum. Street Fighter V a oublié le strict minimum. L'a même pas atteint. Ouais.
Non, ça résume bien le truc.
Ouais, moi, si on peut comparer les deux, Splatoon, on a eu très rapidement du nouveau contenu, très rapidement des nouveaux modes de jeu, des nouvelles armes, des nouveaux terrains, et de façon plutôt régulière. De ce côté-là, ils nous avaient dit qu'ils le feraient, ils l'ont fait. Et tout est gratuit. Street Fighter V. Le jeu est sorti le 14 février, la première mise à jour a eu lieu fin mars, alors qu'ils nous avaient promis un truc en mars, mais finalement en mars, c'était fin mars. Le mode online fonctionnait à moitié, il n'y avait pas de mode solo, et en plus les personnages étaient payants, quoi. Bon, ce qui est logique, c'est dans leur business model, mais du coup, moi je pense que c'est pour ça que ça n'a pas marché avec Street Fighter V, mais que ça marche avec des jeux comme Overwatch, ça marche avec des jeux comme Splatoon. Parce qu'ils proposent des choses gratuitement, qu'ils le font régulièrement, et que déjà il y a une base solide. Et j'attends de voir ce qu'ils vont faire pour le 2. Est-ce qu'on va commencer pareil avec un truc un peu rachitique au début, que ça va s'augmenter, ou est-ce qu'ils vont partir sur les bases du 1 pour augmenter par la suite?
C'est vrai que ce serait intéressant de voir si ils réemploient finalement le même modèle de déploiement, enfin de mise à jour que pour le 1, où c'est vrai que ça avait commencé très léger. Et au bout d'une semaine, ils avaient débloqué le mode pro, et au bout de 3 semaines, il y avait 3-4 nouvelles cartes, et finalement, c'est vrai qu'il y avait quand même plein de nouveautés à chaque fois. Enfin, chaque fois que tu allumais ta console, tu avais une mise à jour de Splatoon, et tu avais 3-4-5 nouveautés.
Et puis tu avais
deux semaines, trois semaines, quoi.
Tu avais des événements réguliers avec les festivals.
Les festivals.
Ils ont été réguliers, en fait, c'est. Là, ils ont clairement montré dans la vidéo de présentation de la Switch que Splatoon a être leur jeu un peu compétitif. Ils veulent, à mon sens, faire un jeu qui est dans la durée, qui va être joué peut-être de façon plus sérieuse, en tournoi, ce genre de choses. Et du coup, ils repartiront sûrement sur le même modèle, parce que c'est ce que font en fait absolument tous les jeux compétitifs à l'heure actuelle, c'est que on a une base solide qui existe, et on met ça à jour régulièrement. Il y a des saisons avec des nouveaux personnages, des nouveaux modes de jeu, des ajustements sur les cartes, ce qu'on a déjà eu dans le premier Splatoon. Et donc si effectivement ils ont cette ambition pour le Splatoon 2, de faire un jeu compétitif en synergie avec l'éventuel succès de la Switch, on aura le même modèle avec des mises à jour régulières, du contenu régulièrement et ce genre de choses.
Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que sur ARMS, ils sont un petit peu partis dans ce modèle-là aussi.
Et j'avoue que ARMS, je sais pas encore trop ils vont vouloir en venir, je pense qu'on en saura plus tout à l'heure.
Moi je dois dire que ARMS, c'est vraiment le jeu qui me titille très légèrement.
Ah, pour moi, ARMS a à peu près autant de chances d'être... peut à la fois être complètement anecdotique à mes yeux, que peut être en fait un excellent jeu de combat en multi, en tout cas un jeu assez fun.
Ah non, ça c'est clair que, enfin, pour y avoir joué, il y a quand même un très gros potentiel. Le problème, c'est qu'il faut que les gens accrochent, et ça me paraît moins simple que sur un truc comme Splatoon, qui est assez simple, qui est déjà très original, parce qu'il s'agit pas juste de buter les connards d'en face, donc c'est pas évident de faire perdre aux gens leur réflexe de « faut buter les connards d'en face ». Arms, c'est pareil, hein, c'est, le concept est intéressant, le gameplay est super quali, mais derrière, il faut que les gens arrivent à tilter, quoi. Ça, je suis pas sûr que ça va se faire. Bref.
Ah ouais, je pense qu'une petite démo lancée tranquillement à minuit 35 après le direct.
Ce serait une bonne idée. Nintendo, moi, si tu nous écoutes.
J'aimerais pouvoir tester Arms sur quelques parties. Donc, pour me faire une idée déjà, parce que je trouve qu'il y a du potentiel.
Pour y avoir joué.
Et en même temps, ça peut être juste un Wiibox amélioré, quoi. Bon, il y a un dash aérien, donc.
Il y a un énorme potentiel. Quand tu regardais à l'événement Switch au mois de janvier, là, vers la fin de la journée, il y a des mecs qui commençaient à bien le doser, le Arms. Ça commençait à faire des combats vachement plus stratégiques que ce qu'on imagine, vachement plus tactiques, avec sacrément du réflexe. Non, c'est. Et puis. Des personnages différents qui ont l'air plutôt bien équilibrés, c'est-à-dire que moi au début je me suis dit la grosse brute ça va être ultra facile, mais non en fait il est quand même lent, donc c'est pas si évident que ça. Les esquives sortent pas si facilement que ça, enfin bref, je pense que Arms a un énorme potentiel, mais il faut arriver à convaincre les gens d'y jouer, et ça va pas être facile parce que motion control, parce que tout ça qui laisse un peu des mauvais souvenirs, et peut-être que ça va être un peu compliqué.
Ouais, je pense que le motion control est une très bonne porte d'accès pour les plus jeunes, mais... C'est quelque chose qu'on a une tendance à oublier en fait, parce qu'on est habitué au bouton, mais j'ai plus facilement fait jouer mes petits cousins à Mario Kart avec le gyroscope qu'avec les boutons et l'élastique, quoi.
Ouais, mais est-ce que tu vas arriver à convaincre les déçus de Kinect, les déçus de la Wii et tout ça, de dire « Ah, regardez, on remet le couvert sur le motion control avec du jeu vraiment gamer qui marche et tout ?» Alors oui, au bout de 5 minutes, tu l'as essayé et tu te rends compte que oui, ça marche vraiment, que c'est super réactif, qu'il n'y a pas de souci. Mais il faut vouloir aller vers le jeu. Et ça me paraît quand même moins évident.
Il y a un moment où il faut être ouvert d'esprit, quoi.
Il y a un moment où il faut ouvrir ton esprit, mec.
Ouvrir tes chakras, quoi. Sois cool, sois zen.
Bref, nous allons nous quitter, donc. Je vous rappelle... Oui.
Juste une question au niveau du jeu en réseau. Moi, sur le test fire, j'ai pas du tout eu de lag. Contrairement au premier.
Moi, juste un
premier,
petit, c'est peut-être ma connexion.
Est-ce que les Japonais se téléportaient?
Oui, c'est ça. J'ai pas eu de téléport. Alors peut-être, est-ce que maintenant c'est régionalisé? Ou est-ce qu'ils ont amélioré le jeu en réseau?
J'ai joué avec des Japs, donc c'est pas régionalisé.
Mais est-ce qu'ils se téléportaient?
Ils se téléportaient pas.
Est-ce que tu mourais pour des raisons inexpliquées en plein milieu de la map?
J'ai eu beaucoup de déconnexions.
Ah.
Bah sur la session de vendredi soir, j'ai eu énormément de resets, moi.
Après, c'est le concept du Global Test Fire. Il me semble que le premier était quasi catastrophique.
La première session du premier Global Test Fire, du premier Splatoon, était une véritable catastrophe. Je crois que c'est le moment où, quand on avait regardé le mur de Twitch, tu sais, là où t'avais un mur avec une miniature de tout ce qui était en train de jouer, tout le monde avait le même écran de patienter, ça vient. Et je crois que le premier Global Test Fire, il n'y a qu'au bout de 55 minutes qu'on a réussi à jouer à peu près 2 minutes avant que ça coupe, quoi. Donc c'était quand même un peu la grosse carotte.
Mais c'est bien, il faut bien qu'ils fassent les tests maintenant plutôt qu'au lancement et qu'au final on puisse pas jouer pendant une semaine.
Ah complètement, mais je pense que le premier Global Test Fire, c'était vraiment ça, hein, c'était de la bêta grandeur nature en mode est-ce que ça va tenir et voilà, et comment, dans quelles conditions. C'était pas forcément idiot. Bien, je vous propose donc de nous quitter. Ça fait à peu près 3 fois, donc là on va vraiment le faire.
Oh.
T'as une citation ou pas?
J'ai une citation, mais si tu veux proposer une alternative, tu as le droit.
Oh non, j'en ai pas. Je ne fais pas comme les 2 semaines.
Alors, je vous rappelle d'ailleurs, chers auditeurs, que si vous voulez nous envoyer des questions, vous pouvez les envoyer avec le hashtag DojoBar sur Twitter, sur l'adresse mail bar@nintendojo.fr ou sur le forum en message privé. Nous nous ferons un plaisir de citer vos questions et d'y répondre en direct à la fin des émissions, quelles que soient les questions, aussi stupides soient-elles. Voilà, vous pouvez nous les poser. Nous allons donc nous quitter avec la citation du jour, qui en fait est plus une espèce de constatation. Hein. Les deux premières dames des États-Unis les plus marquantes de l'histoire, est-ce que vous savez qui c'est?
Non.
Alors, tout le monde dit les deux premières dames les plus marquantes, c'est Jackie Kennedy et Michelle Obama.
Moi, j'aurais dit les deux premières dames de Clinton.
Pas mal. Donc, elles ont été officiellement reconnues il y a 2 semaines, hein, c'est Jackie Kennedy et Michelle Obama. Donc, j'ai vraiment envie de dire merci. Merci, Jackie et Michelle. Voilà.
Bien. Putain, mais.
Du coup, ça correspond bien aux deux femmes de Clinton en fait. Tout se retrouve.
Tout se retrouve. Non, mais on est bien. On est très très bien. Bref, on se retrouve la semaine prochaine où ce sera sûrement un sujet rétro, mais je sais pas encore quel jeu. Faudrait qu'on se décide très rapidement pour que tout le monde puisse s'y remettre un peu ce week-end. Mais voilà, on va faire un sujet rétro la semaine prochaine. On se retrouve 21h mercredi comme d'habitude. Bisous, ciao tout le monde.
Salut.
Ciao.
Salut.